Chers amis, le moment est venu en effet de méditer la parole de notre Dieu. Comme dit notre ami, ces choses surprenantes, épée, réveille-toi. Pour parler de l'amour de Dieu, pour parler du salut, nous parlons d'épée. C'est vrai. Cela nous ramène à notre thème que nous avons développé ces jours-ci, à savoir que tout le message de Dieu, le message de salut, utilise une contradiction formelle. Le monde et Dieu sont en désaccord total. Il n'y a accord sur aucun point. J'ai rappelé que le Seigneur Jésus avait dit au jeune homme riche qui était venu lui demander ce qu'il fallait faire pour hériter la vie éternelle, ce jeune homme s'étant adressé au Seigneur en lui disant « Bon maître !» et Jésus de répliquer « Ne sais-tu pas qu'il n'y a de bon que Dieu lui-même ?» Et par conséquent, le message utilise la contradiction et disons le paradoxe. Et nous sommes ce matin, en effet, en présence d'un paradoxe. Dieu a utilisé différents moyens pour adresser aux hommes, et je dis bien à tous les hommes, à tous, sans exception, son message de salut. Commençons par lire dans le livre du prophète Zacharie. Zacharie au chapitre 13. Chapitre 13, verset 7. Je réduis au maximum les lectures qui seront à faire dans la Bible pour rester dans le temps qui m'est imparti. Épée, lève-toi sur mon pasteur et sur l'homme qui est mon compagnon, dit l'Éternel des armées, frappe le pasteur et que les brebis se dispersent. Or, ce passage est rappelé dans l'évangile de Matthieu, justement au moment où le Seigneur, étant arrêté, va être jugé et condamné à mort. Épée, lève-toi sur mon pasteur. Et c'est la version Darby qui traduit comme ceci, épée, réveille-toi. C'est de là, donc, que j'ai pris le titre de notre méditation ce matin. Épée, réveille-toi contre mon berger, pasteur ou berger, contre l'homme qui est mon compagnon, on peut comprendre mon associé. Dieu s'est associé un homme, et cet homme, c'est son propre fils, la parole de Dieu, faite chair. Épée, réveille-toi contre mon berger, ou épée, lève-toi sur mon pasteur. Nous savons que la prophétie de l'Ancien Testament nous a parlé longuement du Messie. Et dans le chapitre de 53 du livre d'Ésaïe, nous avons notamment ceci, « L'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. » Sur lui, c'est-à-dire le Messie annoncé, et celui que nous connaissons maintenant comme le Seigneur Jésus-Christ. « L'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. » S'il y a un temps passé, ne nous étonnons pas, les temps dans l'hébreu ne correspondent pas au temps dans la langue française, et le passé est plus souvent utilisé en hébreu pour indiquer le futur. Nous avons eu l'occasion aussi cette semaine de nous pencher sur la prophétie, alors celle-ci qui est dans le Nouveau Testament, et qui est dû au vieux Siméon, au moment où Marie, Joseph, apporte l'enfant Jésus, au temple. Et notamment, cet homme de foi, s'adressant plus particulièrement à Marie, lui dit, « Et à toi-même, une épée, te transpercera l'âme afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. Retenons bien cela, afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. L'œuvre de Dieu se fait à raison, précisément, de ce dévoilement des pensées dans les cœurs. Mais c'est d'abord le berger, le pasteur ou le berger de l'Éternel, qui est l'associé de l'Éternel, c'est lui d'abord qui est frappé par l'épée. Il est frappé. Le Seigneur Jésus est frappé par l'épée en ce sens qu'il est mis à mort par crucifiement. Et puis, ensuite, nous allons voir comment l'Église, elle aussi, doit être frappée par l'épée. D'abord le berger, lui. D'abord le Messie, d'abord le Christ, le Sauveur, frappé par l'épée, c'est-à-dire mis à mort, l'épée intervenant là comme une figure, n'est-ce pas? Et puis, ensuite, l'Église. Il ne s'agit pas d'ailleurs dans le passage de Luc, chapitre 2, verset 35, la prophétie du vieux Siméon, il ne s'agit pas seulement de la douleur de Marie, que Marie ressentira au pied de la croix, lorsqu'elle se verra son fils cloué sur la croix, mais il s'agit de la mort par l'Esprit de l'Éternel des disciples de tous les âges. Je dis bien la mort des disciples de tous les âges. Et voilà le grand paradoxe du message de Dieu. Tout commence par la mort. Normalement, dans le sens commun, tout commence par la vie. Les enfants, les hommes naissent, petits-enfants, ils grandissent, c'est la naissance qui est à l'origine de tout. Eh bien, dans la voie du salut que Dieu a ouverte à tous les hommes, c'est la mort qui est en premier et qui est indispensable. Nous allons nous expliquer à ce sujet. Lui, le juste, le Fils de Dieu, le Fils éternel, qui est la parole de Dieu faite chair, doit mourir selon le plan du Père. Ça, c'est quelque chose qui, vous le savez, est capital. Il faut le rappeler, la mort du Seigneur. Et pourquoi le Seigneur meurt-il ? Pour expier le péché des hommes, le péché du monde entier. Il meurt pour cela. Et pour que les hommes soient sauvés, pour que nous soyons sauvés, qui que nous soyons et où que nous soyons, pour que nous soyons sauvés, il faut mourir avec lui. Voilà où le dessein de Dieu devient tout à fait explicite. Jusque-là, des figures étaient surtout employées, mais voici maintenant un message qui nous est adressé en langage tout à fait direct. Je lis en effet dans Romains chapitre 6 au verset 3. « Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. » Ainsi comment Paul s'adresse à des chrétiens. « C'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, devenu une même plante avec Christ. Voyez-vous, le pécheur, quel qu'il soit, devient donc, dans le plan de Dieu, doit devenir une même plante avec lui, c'est-à-dire doit être identifié à Christ. L'identification est un principe absolument formel et merveilleux du plan de Dieu. Voyez-vous, le pécheur est pris. Non, à ce pécheur, on ne va pas lui reprocher ses péchés. Dieu n'appelle pas les pécheurs pour leur faire des reproches. Lorsque l'apôtre Pierre s'est effondré au pied du Seigneur, à la vue de cette pêche miraculeuse que le Seigneur, par sa puissance, avait réalisée, Pierre dit au Seigneur, « Seigneur, éloigne-toi de moi, car je suis un homme pécheur. » Il voit la puissance de Dieu se déployer, en même temps la sainteté de Dieu. Et alors là, il se voit tel qu'il est. Voilà une révélation qui lui vient par l'esprit, il est l'homme pécheur, l'homme indigne. Et il dit au Seigneur, éloigne-toi de moi, tu ne peux pas rester avec un homme tel que moi. Eh bien cela, chers amis, c'est dans le plan de Dieu. Dieu veut que tout homme voit, connaisse qu'il est pécheur. Connaisse qu'il est dans cet état de péché qui n'est pas spécial à l'un ou à l'autre, quelles que soient les modalités selon lesquelles la puissance du péché se soit exercée dans une vie ou dans une autre. Là n'est pas la question, mais tout homme est dans cet état. C'est un état, le péché, un état de péché qu'il faut donc connaître. Dieu veut cette connaissance-là, et sa parole, qui est une épée, nous allons le préciser, une épée à deux tranchants, c'est la plus éloquente des images qui nous soit donnée par l'Écriture. La parole de Dieu est une épée à deux tranchants. Nous allons voir les choses se justifier dans ce sens. Ainsi donc, il faut être une même plante avec lui par la conformité à sa mort. Et nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Si donc nous sommes identifiés au Christ, crucifiés à sa mort, nous serons identifiés à lui dans sa résurrection. C'est-à-dire, si nous avons part, une part que Dieu seul peut faire, il ne s'agit pas d'être nous-mêmes cloués sur la croix, il l'a été pour nous. Mais le plan de Dieu prévoit que par puissance de l'esprit, selon la volonté formelle du souverain maître de notre Dieu, le pécheur identifié au Seigneur Jésus reçoit sur lui les conséquences magnifiques, libératrices de la crucifixion de Jésus. Ces conséquences se reportent sur tout homme. Que faut-il pour cela ? La foi. La foi des cœurs, la foi qui est une force, nous le disions, une force de l'âme, et qui est capable de se projeter en avant et de saisir l'avantage, le bénéfice de l'œuvre de Dieu en libération et en salut. Voilà donc le plan de Dieu, il faut mourir. Mourir avec Christ pour vivre avec lui, être libéré de son péché. Et lorsque l'on est mort avec Christ, alors le péché n'existe plus. L'état de péché a disparu. Il y a affranchissement total à l'égard de la puissance qui était dans le pécheur, en chacun de nous. Cette puissance de péché, nous en sommes libérés. Et voici maintenant aussi, au point de vue de la responsabilité devant la justice de Dieu, nous sommes aussi libérés de nos péchés. C'est le pardon des péchés qui est fondamental dans l'œuvre du salut. Personne ne peut être sauvé s'il ne reçoit cette grâce du pardon de ses péchés. Voyons maintenant le rôle de l'épée. Dieu accomplit son œuvre au moyen de son épée. Nous avons dit que c'était là une image, mais conservons-la cette image, elle est tellement éloquente. Dieu accomplit son œuvre au moyen de son épée, et d'ailleurs nous trouvons dans l'Ancien Testament fréquemment l'expression « l'épée de l'Éternel ». Par conséquent, nous voyons bien déjà par cela que le plan de salut de Dieu s'est étendu à toute la révélation depuis que la Bible a été commencée jusqu'à la fin. Le plan est là, toujours le même. L'épée joue un rôle important. Tantôt, l'Éternel frappe par son épée les infidèles à l'Alliance, l'Ancienne Alliance, avec le peuple d'Israël, et surtout, il menace de frapper, il ne frappe pas toujours, l'épée ne s'abat pas toujours, mais elle s'est abattue, nous l'avons dit, sur le berger, sur le Messie, sur Christ, ça, elle s'est abattue, vraiment, vraiment, Mais autrement, elle menace de frapper le peuple, qui, comme selon les expressions qu'on trouve dans l'Ancien Testament, le peuple qui est devenu gras, épais et replet. Voyez un peu ce que ça donne, n'est-ce pas? Le peuple qui s'est éloigné de Dieu parce qu'il ne pense qu'à lui, il ne pense qu'à son bonheur immédiat, à le réaliser lui-même. Il s'éloigne de Dieu, il est devenu gras, épais et replé, il a regimbé, il a abandonné son Dieu, et l'épée menace, le menace. L'épée menace aussi les ennemis de Dieu, bien entendu. L'épée à deux tranchants, donc, a toujours accompli les œuvres successives de Dieu. Un jour, et c'est le premier livre des Chroniques qui nous raconte cela, le roi David voit l'ange de l'Éternel pointant une épée à double tranchant sur Jérusalem. Et il voit cela. Il sait ce que ça veut dire. Dieu a quelque chose contre sa ville, contre Jérusalem. Il s'est passé des choses que Dieu ne peut pas laisser se perpétuer, il ne peut pas les laisser passer. Ce sont des choses qui heurtent sa justice. Et donc, une épée est pointée sur Jérusalem. Et David le voit. Alors que fait-il? Sur un certain plateau appelé l'air d'Ornan, le roi David bâtit un autel et offre des sacrifices d'action de grâce et des holocaustes. Il est guidé en cela par l'Esprit de Dieu. Et l'Éternel répond par le feu du ciel sur les holocaustes. Le feu authentique du ciel descend sur les holocaustes et consume les holocaustes. Voilà la réponse de Dieu. Le feu du ciel qui consume les holocaustes. Le sacrifice est là. Le sacrifice a été agréé. Le sacrifice a agi. Et maintenant, Dieu pardonne. C'est merveilleux. Et dans le temps où nous sommes maintenant, nous sommes placés, vous savez, dans le temps de la nouvelle alliance, l'alliance qu'on appelle l'alliance de la grâce, avec raison, et maintenant nous avons un sacrifice, nous n'avons plus à recourir aux holocaustes d'autrefois, nous avons un sacrifice, celui du Seigneur Jésus, précisément. Et par ce sacrifice, lorsque le cœur conscient d'avoir désobéi à Dieu, de l'avoir offensé, de nous être engagés dans une voie où nous appelait précisément la chair, l'homme naturel, au lieu d'obéir à l'esprit, alors si vraiment nous en sommes conscients et si nous sommes repentants, nous invoquons le Seigneur Jésus-Christ et nous sommes délivrés, nous sommes rétablis dans la communion avec le Seigneur. Il y a un épisode qui nous est raconté aussi dans le premier livre des rois et que pour ma part j'ai toujours beaucoup estimé. Il s'agit du jugement de Salomon. Salomon avait reçu le don d'une sagesse extraordinaire. Et chose étonnante, dans l'Ancien Testament, la seule circonstance qui nous montre ce qu'était, comment agissait cette sagesse extraordinaire, et même une science infuse, que Salomon avait reçue, ce seul épisode, c'est le jugement de Salomon. Et en quoi consiste-t-il? Il est très simple. Deux femmes prostituées se présentent devant ce roi, se disputant un petit bébé, un enfant qui venait de naître. Les deux femmes venaient d'accoucher, elles avaient eu chacun un enfant, et puis l'un des enfants, la nuit, était mort. Et alors elle se disputait l'enfant qui restait vivant parce que elle prétendait que pendant la nuit, la mère qui s'était aperçue que son enfant était mort parce qu'elle s'était couchée sur lui, avait fait l'échange des enfants. Elle était allée chercher l'enfant de sa compagne qui était plongée dans le sommeil. Elle avait pris son enfant vivant, elle l'avait mis à côté d'elle et elle avait mis son enfant mort dans le sein de l'autre. Et alors, voilà que les femmes, exactement avec la même accusation, se présentent devant le roi en disant « C'est elle qui a fait cela, elle a pris mon enfant vivant et elle a mis dans mon sein son enfant mort. » Alors Salomon, que fait-il? Il faut savoir qui est la vraie mère de ces deux femmes. Elles le prétendent l'une et l'autre. Salomon demande une épée. Apportez-moi une épée. On lui apporte une épée à double tranchant, et chose alors saisissante, le roi dit, coupez l'enfant en deux et donnez-en une moitié à l'une et une moitié à l'autre. Ah, extraordinaire ça, couper l'enfant en deux. Alors, à ce moment-là, l'une des deux femmes a une réaction immédiate. Que dit-elle? Elle dit, ô roi, que l'on ne fasse pas du mal à l'enfant, donnez-le plutôt à l'autre femme, à l'autre mère, mais ne lui faites pas du mal. Et l'autre femme, au contraire, dit, non, il ne sera ni à moi ni à toi cet enfant, coupez-le. Alors le roi Salomon dit, l'enfant, ne lui faites pas de mal, donnez-le à la première. À la première, car c'est elle qui est la mère. Alors, chers amis, là nous avons une révélation magnifique. L'épée est venue. Le roi s'est servi de cette épée comme il faut se servir d'une épée, couper l'enfant en deux. C'est à quoi sert une épée de couper, trancher? Et alors, c'est la réaction de la vraie mère, et c'est une réaction d'amour. Une réaction d'amour, une réaction de vérité. L'épée va faire donc apparaître la vérité. Où était la vérité entre ces deux femmes? La vérité, la voici qui apparaît. Elle apparaît avec l'amour. L'amour maternel de la vraie mère, là, est en émoi, et c'est la vérité qui apparaît. Et puis, avec la vérité, la vie. L'enfant ne va pas être coupé. L'enfant ne va pas mourir, il va vivre. Il a été menacé de mourir, mais il va vivre. Quant à la fausse mère, sa réaction étant « coupez-le », c'est la réaction de la haine, du mensonge et de la mort. Elle, pour elle, elle acceptait la mort de l'enfant. Elle n'a que haine, elle n'a que mensonge. Chers amis, que cet épisode est véritablement magnifique dans sa révélation. Oh, dans sa claire révélation. L'épée est là. Et l'épée fait apparaître la vérité, l'amour et la vie. Chers amis, c'est cela que fait la parole de Dieu. La parole de Dieu est une épée, elle fait apparaître toujours la vérité, l'amour, et elle donne la vie. Mais il faut qu'elle soit une épée, comprenons-le. Et puis, elle fait apparaître aussi tout ce qui reste dans la haine, tout ce qui ne veut pas venir à la lumière. Et c'est alors la haine, le mensonge et la mort. Ces trois choses vont ensemble. Là où il y a le mensonge, il y a aussi la haine et il y a la mort. Le mensonge est en direction de la mort. La vérité en direction de la vie. La parole de Dieu est donc une épée à deux tranchants. Elle montre la mort. Elle menace de donner la mort. Elle l'a donnée au berger de l'Éternel. Et elle va la donner de la manière que nous avons indiquée, c'est-à-dire par identification avec le Christ, le berger. Elle va le donner aussi aux brebis. Nous tous, chers amis, qui ici, dans cette assemblée ce matin, nous sommes chrétiens, avons donné notre cœur et notre vie à Jésus-Christ, eh bien, nous avons été identifiés à la mort. de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, et nous sommes identifiés à sa résurrection. J'aimerais aussi, avant de terminer, vous lire un texte qui est dans l'Épître aux Hébreux. L'Épître aux Hébreux au chapitre 4. Chapitre 4 et verset 12 de l'Épître aux Hébreux. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, devant Dieu, mais tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Je pense que ce langage est suffisamment transparent, suffisamment clair. Mais là, nous retrouvons encore la parole de Dieu sous cette image de l'épée à deux tranchants. Il est question, avec cette épée, de partager âme et esprit, et il y a encore là une figure qui se glisse, partager jointure et moelle. C'est une allusion à ce que faisait autrefois le sacrificateur avec son grand couteau. Il partageait en effet jointure et moelle. C'est une allusion simplement au sacrifice d'autrefois, pour que nous pensions au sacrifice actuel qui assortit l'alliance de la grâce, c'est-à-dire le sacrifice unique, merveilleux et très suffisant en toute chose du Seigneur Jésus-Christ. Et alors, cette épée, la parole de Dieu, partage âme et esprit. Pour bien comprendre cela, il suffit de se rapporter à la transcription que donne de ce passage Alfred Kuhn. Voici comment il explique que ce passage, c'est plus une explication qu'une traduction. L'épée donc pénètre jusqu'à la ligne de séparation entre la vie de l'âme et la vie de l'esprit. Elle discerne et révèle les sentiments et les penchants du cœur. Elle juge les pensées et les intentions les plus secrètes. Voyez-vous, la parole de Dieu va séparer la vie de l'âme de la vie de l'esprit. Oui, parce que on pourrait très bien tenter de devenir chrétien pas uniquement par l'âme. Vous savez que l'homme, nous en parlions encore hier soir, l'homme est constitué de trois éléments. C'est une constitution dite trichotomique. J'ai montré que des hommes de science l'avaient pleinement accepté. Cette constitution est donc esprit, âme et corps. Il ne s'agit pas, bien entendu, de diviser l'homme parce qu'il forme une unité, bien qu'il soit esprit, âme et corps. Il forme une unité. Mais il est évident que ce qui se fait, ce qui se prépare au niveau de l'âme est différent, peut-être différent chez le chrétien, ça ne devrait pas, mais chez un homme en général, différent de ce qui se prépare au niveau de l'esprit. On pourrait être tenté de devenir chrétien uniquement sur ce mode de l'émotion. Et cela, Dieu ne le veut pas, parce que alors, les péchés, l'état de péché subsisterait. Et par conséquent, le salut serait impossible. Il ne faut pas que l'état de péché subsiste. Comme je l'ai dit, il ne s'agit pas, Dieu n'a pas pour but de reprocher aux hommes leurs péchés. Jésus n'a pas dit à Pierre, « Ah mon ami, mais c'est vrai que tu es un pécheur, tu sais, je le sais bien. » Je sonde, moi, les cœurs et les reins, et je sais combien tu es pécheur, je sais tout ce que tu as fait de mauvais, de mal dans le cours de ton... Jamais Le Seigneur relève Pierre et lui dit, « Pierre, désormais, tu seras un pêcheur d'hommes. » Voilà la réponse de Jésus. Elle est magnifique, n'est-ce pas? Il ne s'agit pas de reprocher les péchés, mais il s'agit d'en tarir définitivement la source. Il s'agit de rayer, de supprimer l'état de péché dans l'homme. Et pour cela, ce n'est pas l'âme seule qui peut agir. Il faut que l'esprit intervienne et que l'esprit soit vivifié par l'esprit de Dieu. Retenons bien ceci, que rien n'échappe au regard de Dieu. Et nous rejoignons ce que la prophétie du vieux Siméon nous disait, « Une épée te transpercera ». Cela, n'est-ce pas, nous avons tout à fait le droit, j'ai étudié le texte en particulier, nous avons le droit d'étendre cela véritablement à toute l'œuvre de salut de Dieu. Une épée va te transpercer, une épée va venir séparer en ton cœur ce que tu caches, ce que tu veux conserver en dépit de l'amour de ton Dieu qui veut te sauver, mais qui ne veut pas te sauver avec ton péché. Il veut te sauver en ôtant de toi le péché, la racine même du péché. Alors, une épée va te transpercer, c'est-à-dire la mort expiatoire du Seigneur Jésus va devoir intervenir chez toi, dans ta vie, dans l'intimité profonde de ton être, elle va intervenir. Et alors là, tu vas être vraiment celui que Dieu, à qui Dieu dit, va en paix, tes péchés te sont remis. Voilà donc quelque chose qui nous concerne tous, concerne ceux qui ne sont pas encore à Jésus-Christ et concerne ceux qui sont déjà à Jésus-Christ et devenus chrétiens, mais cela nous concerne à chaque instant. J'ai remarqué toujours avec grande joie que l'Écriture s'adressant, les Épîtres s'adressent à des chrétiens, à des assemblées, mais elles nous font toujours revenir à l'expérience du début. Nous avons besoin de toujours revenir à l'expérience du début. Paul nous ramène autrefois, voilà ce que vous étiez, rappelez-vous ce que vous étiez autrefois, mais rappelez-vous comment la grâce de Dieu a agi aussi en vous et ce que vous êtes devenu maintenant. Voyez ce que vous êtes maintenant, des enfants de lumière. C'est au cœur que Dieu regarde d'abord, ne l'oublions pas. Dieu regarde au cœur. Et Jésus l'a suffisamment enseigné, il l'a enseigné de différentes manières, et notamment dans le chapitre 5 de l'Évangile selon Matthieu. Enfin, en conclusion, disons ceci, pour nous chrétiens, considérons-nous comme morts au péché, c'est-à-dire sachons que en nous l'œuvre de Dieu s'est faite pour que nous soyons vraiment libérés, débarrassés du péché et ne devons plus succomber aux tentations. Et c'est donc là, d'abord, dans le cœur, que la grâce de Dieu entend agir. La parole de Dieu, l'épée à deux tranchants, donc parle de mort. Si tu n'es pas mort, il faut, mon ami, pour que tu vives, que l'épée intervienne, l'épée qui a frappé ton sauveur, et l'épée qui l'a introduit dans la mort où il est resté 3 jours et 3 nuits, et étant ressuscité ensuite, il faut que cette mort ait pour toi les conséquences merveilleuses d'une libération pleine et entière de ton péché, afin que tu reçoives la vie et que tu sois heureux avec tous ceux que Dieu bénit pour l'éternité. Amen.